Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du vendredi 17 janvier 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Au Togo, 7 candidats dont le président sortant Foron Yassimbe sont retenus pour la présidentielle du 22 février. Au Niger, la société civile n'a pas réussi à mobiliser pour sa manifestation contre la présence militaire étrangère. Ouverture ce dimanche à Berlin d'une conférence sur la Libye, le président russe Vladimir Poutine et le chef de la diplomatie américaine se rend sur place. En partie magazine, analyse sur les conséquences de la déclaration des pays de la Zimao sur le passage à la monnaie unique commune.
Le rejet d'hier est un rejet de pays, de toute manière, qui ne sont pas prêts. Ils n'ont pas le bon taux d'inflation, ils n'ont pas les bons déficits.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. 5 soldats burkinabés ont été tués ce vendredi dans l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule aux environs de Arbinda, dans la province du Soum. Des renforts ont été déployés sur la zone pour un ratissage et les blessés ont été évacués. À la veille de Noël, 35 civils, dont 31 femmes, ainsi que 7 militaires, avaient été tués dans une attaque de la base militaire puis de la ville d'Arbinda. La ministre française des Armées, Florence Parly, se rendra dans des pays du Sahel dimanche en compagnie de 3 de ses homologues européens. Cette visite intervient une semaine après le sommet de Pau, où la France et les États du G5 Sahel ont annoncé une série de mesures, dont la création d'une coalition pour le Sahel. Nous n'y sommes pas seuls et nous y serons certainement plus nombreux encore lorsqu'à l'été, la force Takuba, composée de forces spéciales européennes, va pouvoir accompagner les forces armées maliennes au combat, a indiqué Florence Parly. Au Niger, des organisations de la société civile ont appelé les citoyens à braver ce vendredi la décision d'interdiction d'un meeting de soutien aux forces de défense et exiger le départ des troupes françaises. Le dispositif sécuritaire mis en place n'a pas permis aux manifestants d'atteindre le lieu du meeting et on fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Très tôt, la place de la concertation, lieu prévu pour le meeting, a été quadrillée par la police, également déployée sur les principaux axes de la ville que les manifestants suivent d'habitude. Quelques échauffourées ont eu lieu entre manifestants et les forces de l'ordre dans les environs du grand marché de Niamey. Mais la situation s'est très vite calmée.
Oui, que les populations qui ont accepté légalement de sortir après la période de 14 heures pour venir manifester, qui se voient en tout cas la place de la concertation quadrillée comme si nous sommes dans un état de siège. C'est une entorse grave à la démocratie. Et cela constitue quand même une violation flagrante des dispositions constitutionnelles.
Sur leur page Facebook, les responsables de la société civile qui ont appelé à cette manifestation ont déploré cette attitude du gouvernement de systématiquement interdire les manifestations publiques de protestation contre la présence militaire étrangère sur le sol nigérien. Moussa Tiangari de l'association Alternative Espace Citoyen écrit par exemple « Le meeting prévu n'a pas pu se tenir, mais le monde entier a été témoin de notre volonté » de faire entendre un autre son de cloche que celui des autorités acquises aux intérêts de l'impérialisme. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Ils seront 7 candidats à la présidentielle du 22 février prochain au Togo. La Cour constitutionnelle togolaise a rendu publique ce vendredi la liste des candidats après avoir examiné les dossiers transmis par la commission électorale. Des précisions avec notre correspondante à Lomé Kailosson.
Sur les 10 dossiers de candidature transmis par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle n'a eu qu'à étudier 9, puisqu'un candidat s'est retiré en cours de route. 2 candidatures ont été rejetées, notamment celle d'Innocent Kagbara du PDP pour des irrégularités et l'indépendant Aubin Thon pour insuffisance de signature des électeurs. D'après la Cour, seuls 7 dossiers remplissent les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral pour briguer la magistrature suprême. Ainsi, le 22 février prochain, les Togolais auront à départager Foron Yassimbe, le président sortant, Jean-Pierre Fabre qui tente l'aventure pour la 3e fois et Agbeyome Kodjo qui revient après l'humiliation de 2010 où il avait recueilli 0,9% des suffrages exprimés. À ces trois candidats s'ajoutent Aimé Goguet de l'ADI et Tchassona Traoré du MCD qui récidivent après l'expérience de 2015. Les nouveaux petits dans cette course présidentielle sont Georges Kouessan du Parti Santé du Peuple et Komi Olu du PSR. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a assuré qu'il n'était pas impliqué dans les accusations de détournement de fonds publics reprochées à sa fille Isabelle. Dans un courrier, l'ex-homme fort du pays est sorti du silence qu'il observe depuis le début de l'affaire qui vise sa fille aînée. Sans l'évoquer directement, il affirme y être totalement étranger. Le président de la République n'a jamais transféré d'argent public sur son compte ou à quelconque autre entité. Tout ce qui a été dit relève du mensonge, écrit Dos Santos. Le mois dernier, un tribunal de Luanda a bloqué les comptes bancaires et les avoirs angolais d'Isabelle Dos Santos. La conférence qui se tient dimanche à Berlin vise à consolider la trêve et relancer le processus de paix en Libye. Mike Pompeo, Vladimir Poutine, Faez El-Sarraj ont déjà répondu présents, tout comme Moussa Faki Mahamat de la Commission de l'Union africaine. Claire Mongebourg.
Faez El-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli, son rival, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, ont promis d'être présents. Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, a confirmé sa venue. Il devrait exhorter les forces étrangères à se retirer de la Libye et exiger une reprise du processus de paix sous l'égide des Nations Unies. Le président russe Vladimir Poutine a également annoncé sa participation. Selon le Kremlin, des accords fondamentaux seront inscrits dans le texte final de la conférence. Dans une lettre, le maréchal Haftar a remercié Poutine pour ses efforts en faveur de la paix. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, sera aussi présent. L'objectif de cette conférence vise à consolider la trêve en vigueur depuis dimanche et empêcher des ingérences étrangères en Libye.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'avocat Alan Dershowitz, célèbre constitutionnaliste, fera partie de l'équipe de défense du président Donald Trump dans son procès devant le Sénat la semaine prochaine. Le professeur Dershowitz s'exprimera et va présenter les arguments constitutionnels contre la destitution, a indiqué son cabinet. Kenneth Starr, le procureur qui avait mené l'enquête sur l'affaire Monica Lewinsky visant l'ancien président Bill Clinton, devrait aussi rejoindre l'équipe de défense de Donald Trump. Mais c'est Pat Cipollone, le discret avocat de la Maison-Blanche, qui sera en première ligne. Lors de son prêche à Téhéran, l'ayatollah Ali Khamenei s'en est pris aux Européens qui l'accusent d'être les valets des États-Unis au regard du dossier nucléaire et a discrédité les manifestations survenues après la mort de 176 personnes dans le crash d'un Boeing que l'Iran a abattu par erreur le 8 janvier. Nathalie Barche.
Sur le dossier nucléaire, Ali Khamenei a dénoncé la lâcheté, selon lui, des gouvernements britanniques, français et allemands face aux États-Unis. Il dit que l'Iran est prêt à discuter avec tout le monde sauf les États-Unis. Washington s'est retiré en 2018 de l'accord sur le nucléaire et a rétabli des sanctions contre l'Iran qui, en riposte, s'est affranchi de ses engagements. Paris, Berlin et Londres tentent de convaincre Téhéran à revenir au respect total du texte. Dans les rues de Téhéran, la police anti-émeute a été déployée après l'organisation de manifestations depuis que l'armée iranienne a reconnu sa responsabilité dans le crash causé par un opérateur ayant pris le Boeing pour un missile de croisière. Ce drame est un accident amer qui a brûlé notre cœur, a déclaré Ali Khamenei, affirmant que certains essayent de faire oublier la mort de Qassem Soleimani, abattu à Bagdad dans une frappe américaine le 3 janvier.
Au Liban, des manifestants ont bloqué ce vendredi plusieurs routes alors que le mouvement de contestation contre la classe politique entre dans son quatrième mois. Des voitures étaient stationnées dès les premières heures du matin en travers de la chaussée sur un pont surplombant le centre-ville de Beyrouth. Le premier ministre ukrainien a présenté ce vendredi sa démission après la diffusion de déclarations désobligeantes à l'encontre du président Volodymyr Zelensky. afin de dissiper tout doute concernant notre respect et confiance envers le président. J'ai écrit une lettre de démission et je l'ai transmise à M. Zelensky, a écrit le Premier ministre sur sa page Facebook. Selon des fuites publiées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias, M. Gontcharuk aurait qualifié de primitives les connaissances économiques du chef de l'État. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et c'est Nanit Talani qui nous présente la Minute Éco.
5 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest ainsi que la Guinée, réunis à Abuja jeudi, ont rejeté l'éco, la nouvelle monnaie commune prônée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Pour ces pays, cette action n'est pas conforme aux décisions de la CEDEAO qui vise à adopter une monnaie unique pour tous les 15 pays de la région. Le Kenya a besoin d'environ 10 milliards de dollars pour relancer des centaines de projets d'infrastructure, a déclaré le FMI. L'institution n'a nommé aucun projet spécifique, mais la construction de routes, de marchés et de stades est au point mort dans tout le pays. Environ 500 projets, soit la moitié du total, ont été interrompus en raison du non-paiement aux entrepreneurs et des litiges devant les tribunaux. Pour terminer, le palladium a grimpé ce vendredi, atteignant à Paris 2530,60 dollars l'once, soit une augmentation de plus de 9% après avoir dépassé jeudi le record de 2008 avec 2300 dollars l'once. À Londres, l'once de palladium valait 2526,75 dollars l'once contre 2118,71 dollars le vendredi précédent. Les analystes expliquent cette hausse par une forte demande face à une offre restreinte.
À présent, la page des sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La JS Kabylie se sépare de son coach.
Oui, le technicien français Hubert Velud n'est plus l'entraîneur de la jeunesse sportive de Kabylie. Le club algérien l'a annoncé ce vendredi via Twitter. Cette décision intervient après une série de 4 matchs sans victoire, un match nul et 3 défaites notamment. Jeudi, la JS Kabylie a de nouveau perdu en championnat contre l'USM Alger 0-1. Tout à l'heure sur Twitter, le club a indiqué que Jean-Yves Ché, accompagné de Karouf, assurera l'intérim à la tête du staff technique des Jaunes et Verts. Djouder et Aménard conservent leur poste. Fin de citation.
La CAN en janvier, une catastrophe pour Klopp, entraîneur de Liverpool.
Oui, Klopp a déploré le changement du calendrier de la CAN qui se jouera à nouveau en janvier dès 2021. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février est une catastrophe pour nous qui nous fait perdre 3 joueurs, a déploré le technicien allemand. Le lauréat de la dernière Ligue des Champions pourrait en effet devoir se passer du joueur africain de l'année, le Sénégalais Sadio Mané, du buteur égyptien Mohamed Salah et du milieu guinéen Naby Keita lors de la CAN 2021 organisée au Cameroun. Historiquement organisée en début d'année pour éviter de trop fortes chaleurs, la Coupe d'Afrique s'est déroulée en milieu d'année l'an dernier. Une décision du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Mercredi, la Confédération africaine de football a cependant confirmé le retour à la programmation de début d'année dès la prochaine édition de la CAN.
Football toujours, Lyon sur les pistes du Camerounais Toko Ekambi.
Oui, l'Olympique lyonnais est en discussion avec le club espagnol de Villarreal pour un prêt jusqu'à la fin de la saison de l'attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Pour le moment, l'OL discute avec Villarreal d'un prêt avec option d'achat et il est prématuré d'annoncer un accord, même si le staff technique apprécie dans son ensemble. Karl a tweeté le patron du club. Les négociations tourneraient sur un prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros environ, bonus compris.
Termine par la NBA, les Bucks continuent sur leur belle lancée.
Oui, battus chez les Celtics fin octobre, les Bucks ont pris leur revanche plus aisément que ne l'indique le score final de 128-123. Pour accentuer leur domination en tête de la conférence Est, leur bilan de 37 victoires et 6 défaites est tout simplement le meilleur de l'histoire de la franchise à ce stade de la saison. Même l'équipe menée par la légende Karim Abdul-Jabbar, sacrée en 1971, n'était pas partie aussi vite. Gianni Antetokounmpo, le grec d'origine nigériane, a comme d'habitude été leur homme fort avec 32 points, 17 rebonds et 7 passes décisives.
Merci beaucoup Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le 13 janvier dernier, la ville de Pau en France a accueilli un sommet initié par le président français Emmanuel Macron avec les chefs d'État du G5 Sahel. Cette rencontre s'est tenue au moment où la présence des forces françaises est décriée dans certains pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Modibo Dembélé a recueilli la réaction de Niankoro Samake, président du parti PACP et ancien candidat à la présidentielle du Mali.
Je pense que cette rencontre était destinée à résoudre un problème français parce que nous pouvons et nous devons résoudre nos problèmes chez nous. Et comme un maître colon, je crois que c'était déjà là une indication de la Françafrique. Et cela était une insulte à toute l'Afrique. Qu'à cela ne tienne, nos chefs d'État se sont transportés à Pau pour aller à la quête de solutions. Tant qu'ils ne réaliseront pas que la solution n'est ni à Pau, ni dans ces capitales occidentales, nous allons continuer à tourner en rond. Parce que la solution n'est nulle part ailleurs qu'au Mali. Le chemin commence par Bamako. Et ils se sont transportés à Pau. Qu'est-ce que cela a produit? Des insultes et des injures à l'encontre des Maliens qui ne pensent pas exactement de la même façon que le président de la République française. Alors la France voudrait imposer une pensée unique à l'Afrique. Et c'est pourquoi nos présidents se sont précipités pour aller écouter et prendre des ordres pour venir bâillonner leur propre peuple.
Comment expliquez-vous ce sentiment ou cette harangue si élevée contre la politique française en Afrique?
Ah, c'était un sentiment de frustration. D'abord, l'échec vient en premier lieu de nos propres dirigeants qui ont échoué lamentablement à tenir les promesses de sécurité en Afrique et surtout au Mali. L'échec aussi vient de la MINUSMA qui est venue au secours du Mali. L'échec aussi est des Français quand l'armée française à travers Barkhane s'installe au Mali pendant des années et ne parvient pas à réduire le cycle de la violence, augmente au Mali. Alors il faut se dire qu'il y a eu un échec et cette frustration est exprimée par les citoyens des pays du G5 Sahel. Ça n'a rien à voir contre le peuple français. C'est juste un sentiment de frustration contre les politiques et françaises et aussi locales pour endiguer la crise multidimensionnelle.
Si vous étiez le président de la République ou bien vous étiez un de ses collaborateurs, que proposez-vous aujourd'hui pour essayer d'endiguer la montée de l'extrémisme violent au Mali?
Nous allions mettre toutes les solutions et toutes les options sur la table, notamment l'option de dialoguer avec tout le monde. Mais la première des choses d'abord, c'est l'exemple du leader suprême. Quand il le président de la République, il faut prendre des mesures qui tendent à rassurer le peuple malien et pouvoir les rassembler derrière une vision politique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un manque criard de vision politique. Si j'étais le président de la République, il faut que le président impose l'exécution et la mise en œuvre entière des 4 recommandations qui lui ont été formulées par le dialogue national inclusif. Mais au-delà de tout cela, il faut que le président sache qu'il peut réduire significativement le train de vie de l'État.
C'était Niankoro Samake, président du parti PACP et ancien candidat à la présidence du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales de 5 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest et la Guinée ont rejeté hier la nouvelle monnaie commune prônée par le président ivoirien Alassane Ouattara. C'était le 21 décembre dernier. Quels sont les enjeux de cette décision? Eki Abadou a joint à Dakar Abdourahmane Sarr, ancien représentant du Fonds monétaire international au Togo et au Bénin.
Le rejet d'hier est un rejet de pays, de toute manière, qui ne sont pas prêts. Ils n'ont pas le bon taux d'inflation, ils n'ont pas les bons déficits, etc., etc. Aucun de ces pays ne satisfait donc aux critères de convergence. Alors, les pays de l'UMOA, les deux locomotives de l'UMOA, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on prend une décision comme celle-ci, en perspective, de passer à un écho flexible en 2020, le Sénégal et la Côte d'Ivoire projettent des déficits budgétaires de 3% du PIB. Leur dette est en dessous de 70%. Leur niveau d'inflation est faible. Donc ces deux pays de l'UMOA, en perspective, donc en 2020, peuvent adopter l'éco et même flexibiliser cet éco-là éventuellement par rapport à un panier de devises dans un premier temps sans difficulté. Vous voyez ?
Alors, ce communiqué d'hier concerne les pays qui ne sont de toute manière pas prêts. Alors donc, je pense que ce que les pays de l'UE ont fait est une bonne chose. Il faut en féliciter, il faut en réjouir, parce que ce qu'ils l'ont fait permet au projet de l'ECO d'avancer. Si toutefois, hein, un projet ECO-CDAO devait arriver, ce que je doute de toute manière.
Vous doutez pourquoi ?
En réalité, je ne vois pas comment les pays de la CDAO pourront avoir une monnaie commune avec le Nigeria. Je pense qu'il est tout à fait préférable d'avoir le Nigeria avec sa propre monnaie. Elle a beaucoup à faire déjà en interne. Le Ghana a déjà sa monnaie, c'est une grosse économie. Ils ont beaucoup de travail macroéconomique à faire. Les pays de l'UEA ont appris à travailler ensemble. Le fait que les deux locomotives soient prêtes pour un ECO flexible est une excellente chose. Ça veut dire qu'il y aura plus ou moins trois grands ensembles dans cette CDAO. Et on travaillera dans le moyen et le long terme à voir est-ce que oui ou non ces trois ensembles-là veulent bien s'intégrer, disons, pour avoir une monnaie unique, ou bien avoir même une monnaie écrite unique avec une intégration politique. C'est deux projets totalement différents, mais ce que les pays de l'UEA ont fait aujourd'hui permet de diminuer le nombre de blocs qui auront à négocier cette monnaie unique éventuellement.
C'était l'économiste sénégalais Abdourahman Sarr. En Mauritanie, éliminer les violences conjugales à l'égard des femmes, c'est le défi que se lance le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, appuyé par la société civile. Une campagne contre le phénomène est d'ailleurs en cours dans ce pays, mais difficile de convaincre dans une société conservatrice où un quart des femmes estiment parfois normal d'être violentées par un mari, selon un rapport de ce ministère. C'est un reportage Mohamed Diop à Nouakchott.
À 26 ans, elle déserte le domicile conjugal et se réfugie chez ses parents pour fuir un mari violent.
J'étais enceinte. Il me battait jusqu'à provoquer mon avortement. Il me frappait à l'abdomen.
La jeune dame sera détenue 3 jours à la police sur accusation de vol par son mari.
Il me faisait du chantage. Il disait, si tu n'acceptes plus de vivre avec moi, je t'amènerai à la police. Là-bas, j'ai des amis. Je vais leur dire que tu as volé mes 25 millions et tu seras déféré à la prison des femmes.
L'État ne dispose pas de chiffres sur les violences conjugales, mais les dernières statistiques de l'Association des femmes chefs de famille, AFCF, fait état de plus de 2000 victimes en 2018. La plupart n'ont pas obtenu justice.
Parce qu'il n'y a pas une loi de référence pour cette catégorie de violence faite aux femmes, qui est la violence conjugale.
Seuls quelques cas de violence conjugale ont été traités, parce qu'il y a coups et blessures graves. Mais les ONG dénoncent une procédure qui mène directement vers le CADI, le magistrat du département, sans passer par la police.
Une femme blessée par son mari ou battu par son mari doit avoir le droit à une réquisition pour se soigner et le droit à un procès verbal de la police pour aller devant le procureur de la République.
Aujourd'hui, le combat des ONG féminines est de faire voter une loi contre les violences faites aux femmes, dont celle conjugale. Mais le texte a été rejeté au Parlement qui le juge non conforme à la charia, la loi islamique. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Ici Et aux États-Unis, le procès du président Donald Trump reprend la semaine prochaine devant le Sénat. Les sénateurs américains ont prêté serment devant le chef de la Cour suprême qui va présider ce procès historique. Donald Trump devra répondre de deux chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Pour mieux comprendre le rôle de John Roberts, chef de la Cour suprême dans ce procès, John Lindon a joint Jean-François Seznec, professeur à Georgetown University.
Alors, le rôle du juge, c'est en fait de donner des décisions judiciaires quand il y a un conflit entre les divers acteurs du procès. C'est-à-dire que si les démocrates veulent quelque chose et que les républicains ne le veulent pas, le juge a le pouvoir de décider de quel côté ça va se passer, quelle décision va être prise à la limite. Donc, c'est pas vraiment un juge, mais plutôt un arbitre, en fait.
Par exemple, dans le cas des témoignages de certains individus, n'est-ce pas?
Alors, dans le cas des témoignages, il y a un vote. Si le vote est à moitié-moitié, 50-50, alors là, le juge, lui, ce sera lui de faire la décision, si vous voulez. Mais s'il y a un jugement qui soit 52 contre 48 en faveur de ne pas avoir des témoins, là, il n'y aura pas de témoins. Mais s'il y a égalité entre les deux camps, à ce moment-là, lui, il peut prendre la décision.
Alors, c'est un procès, mais beaucoup pensent que c'est joué d'avance. Est-ce que c'est le cas?
C'est vraiment très difficile de savoir ça parce que entre maintenant et début de la semaine prochaine, il peut y avoir pas mal de changements qui vont se passer. Parce qu'il est certain que si, par exemple, le Sénat décide de ne pas avoir de témoins, je pense qu'effectivement, la décision est assez garantie, que les républicains vont avoir le droit de ne pas avoir de témoins et vont prendre une décision en faveur du président. Mais ce n'est pas entièrement sûr parce que quelques-uns des sénateurs républicains vont peut-être changer d'avis parce qu'ils ont juré fidélité à la Constitution, hein, surtout sur cette affaire, ça a été fait hier, et ils vont peut-être réfléchir en disant quand même si c'est un procès, il faut quand même qu'il y ait des témoins. Alors, on ne sait pas exactement encore parce qu'il faudrait qu'il y ait que quatre sénateurs qui changent d'avis, quatre sénateurs républicains qui changent d'avis pour pouvoir avoir les témoins. Si on a des témoins, ça va être des témoins quand même plutôt des témoins à charge et ces témoins pourraient vraiment changer la vue de pas mal de sénateurs qui auraient peur de se représenter, si vous voulez, s'ils prennent parti pour le président et que ces témoignages soient très très négatifs vis-à-vis du président. Mais tout ça, c'est pas sûr du tout et il se pourrait très bien qu'on ait effectivement des témoins, mais que les témoins ne soient pas vraiment à charge. Et que de toute façon, la procédure continue en faveur de Trump.
Il y a aussi les 7 procureurs démocrates. Quel sera leur rôle?
Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est essayer de présenter ce qu'a décidé l'Assemblée nationale et de montrer qu'effectivement, il y a eu une collusion entre les certains membres de l'Ukraine, et Giuliani et tous les représentants de Trump.
C'était Jean-François Seznec, professeur à Georgetown University.
Ma gonna know I'm on the grave and the top.
Voilà, c'est sur ces notes de reggae qu'on se quitte. Une édition mise en onde par Georges Léonard Sagnon. Présentation Abdulrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Comme je t'aime. L'amour est une chose qu'on arrose. Sans épine, il n'y a pas de rose. À chaque fin, il y a une cause. En amour, baby, pas de peine. Pour toi, je m'en irai.